Bonsoir Tatiana Dornet.
Bonsoir.
Et nous vous retrouvons avec Les cœurs sont faits pour être brisés aux éditions Albin Michel, évidemment. Je dis nous vous retrouvons parce que nous avons l'habitude de vous rencontrer à la station Ozone de la librairie Mola. Tatiana Dornet, est-ce que vous étiez une adolescente rebelle?
À votre avis?
Oui, évidemment. Mais quel genre? Racontez-moi.
Alors plutôt punk. Puisque je vous rappelle que je suis franco-britannique. Et que pendant mon adolescence, le punk était vraiment à la mode. Je parle pour les gens, et je pense qu'il y en a quelques-uns ici qui sont nés dans le début des années 60. Et c'était vraiment l'époque du punk. Donc il fallait s'habiller en cuir un peu lacéré. Il fallait mettre des boucles d'oreilles en forme de lame de rasoir, du rouge à lèvres noir, les ongles noirs. Si, je vous regarde, vous me regardez d'un air absolument effrayé. Mais c'était comme ça, mais ça me permettait de me démarquer avec cette étiquette qu'on m'a longtemps collée de jeune fille de bonne famille du 7e arrondissement.
Voilà. Est-ce que vous étiez encombrée par votre beauté?
Ah, j'ai pas du tout. J'étais pas jolie. Hein. Enfin, je veux dire, j'étais très complexée. Je sais pas où vous avez eu cette information, mais j'étais.
Je vous crois pas.
Ah non. J'étais une ado très complexée, très timide, et le fait d'être punk m'a beaucoup aidée parce que du coup on se déguisait et donc on pouvait être quelqu'un d'autre. Et c'est ça qui m'intéressait.
Est-ce que vous alliez souvent au cimetière?
Ah, je vous vois venir. Oui.
Oui?
Oui, oui.
Qu'est-ce que vous faisiez dans les cimetières?
J'allais voir les tombes des gens que j'aimais, enfin des écrivains que j'aimais. Oui. J'allais écrire des lettres que je déposais sur les tombes des écrivains que j'aimais.
Vous avez écrit des lettres à des écrivains morts?
Oui.
Vous vous souvenez de ce qu'il y avait dans ces lettres? À qui?
Bien sûr. J'ai écrit à Maupassant. Je l'ai remercié. Alors c'était il y a longtemps. Hein. Je me rappelle plus très bien, mais je l'ai remercié pour la beauté de ses livres. J'ai écrit à notre ami Oscar. J'ai écrit. Est-ce que j'ai écrit à Émile Zola? Non, c'est difficile. Il est au Panthéon. On n'ose pas. C'est difficile. Non, on n'ose pas.
Bien sûr.
Déposer une lettre au Panthéon.
Bien sûr.
Oui.
D'accord. Donc c'était un endroit de communication pour vous, le cimetière?
Non, je dirais plutôt de recueillement, mais aussi de communion. Et aussi, j'ai toujours aimé aller sur la trace des auteurs que j'aimais. Et donc, quelque part, comme j'étais obsédée, je suis obsédée par les lieux, je visitais leur maison. Et puis, souvent, je visitais leur tombe. Par exemple, Daphné du Maurier n'a pas de tombe, parce qu'elle a voulu être... comment on dit, sprinkled, saupoudré,
oui.
Ses cendres au-dessus d'une falaise en Cornouailles. Elle n'a pas de tombe, mais j'y serais bien allée, mais elle n'en a pas. Donc c'est un endroit, on va dire, un hommage. C'est ça.
On le sait, vous avez toujours écrit, vous êtes née écrivain, Tatiana Dornet.
Oui, assez tôt.
Mais à quel moment, parce qu'il est un peu question de ça aussi dans ce livre, on va y venir, mais on a le temps. À quel moment vous vous êtes dit, ce sera un métier?
Alors, j'ai commencé à écrire très tôt, effectivement, à 8 ou 9 ans. C'était presque quelque chose qui s'est invité tout seul, une passion. En fait, je n'avais pas vraiment compris que ça pouvait être un métier. C'est quand on m'a dit un peu plus tard, mais tu sais, c'est un métier difficile... parce que parfois ça ne marche pas du tout, ou alors on n'arrive pas à être publié. Donc je dirais que c'est au moment de l'adolescence que j'ai compris que ça pouvait être un métier. Et je n'avais pas très bien compris à ce moment-là, et d'ailleurs pour ceux qui ont des personnes de leur entourage qui ont des velléités de devenir écrivain, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas de diplôme. On ne vous donne pas un diplôme en disant que vous êtes écrivain. Il faut d'abord être édité, ce qui est déjà un chemin de croix, je dirais. Et ensuite, il faut trouver ses lecteurs, qui est un autre chemin de croix assez compliqué. Donc, je savais que je voulais en faire mon métier, mais j'ai un petit peu triché, parce que les premiers métiers que j'ai pu effectuer très jeune ont toujours eu un rapport avec l'écriture. Je suis devenue journaliste, scénariste, j'ai traduit... des textes, donc ça avait toujours un lien avec l'écriture, toujours.
Vous étiez certaine d'être publiée, vous avez eu un lifeton?
Mais non, pas du tout certaine. J'ai un premier roman qui a été montré par mon père à un éditeur qu'il connaissait, j'avais peut-être 17 ans. Et cet éditeur a été effrayé par la noirceur de ce que j'avais écrit. Parce que
Parce que vous étiez punk aussi à l'écrit.
Oui, j'ai jamais écrit des romans à l'eau de rose, mais je pense que vous le savez un petit peu quand même. Et donc cet éditeur a épouvanté, a dit à mon père, mais c'est épouvantable, il faut qu'elle écrive des romans d'amour, des choses légères. Et moi, ça m'a ratatinée. Et donc je n'ai pas voulu montrer mon travail. J'ai continué à écrire dans mon coin, tout en menant ma vie, en ayant des enfants, en travaillant comme journaliste. Et ce n'est que vers l'âge, quel âge j'avais, peut-être 29 ou 30 ans, que l'homme de ma vie m'a dit « Mais tu devrais quand même reprendre courage et essayer de te faire publier. » Ça a été très compliqué, effectivement. C'était pour mon premier roman, L'appartement témoin. Donc, pour répondre à votre question, non, je ne m'attendais pas du tout à être publiée facilement. Ça n'a pas été facile du tout.
Parce que dans ce livre... Alors, il y a beaucoup de sujets, et on n'aura pas assez d'une heure, mais il y a, entre autres, la mise en abîme de l'écrivain. La difficulté d'écrire. Parfois, la douleur d'écrire, puisque vous dites que, finalement, on ne choisit pas ses livres. Et il y a un passage qui est à la fois drôle et en même temps terrifiant d'un de vos personnages, une de vos personnages, plus exactement, qui est écrivaine, et qui dit, mais alors, qu'est-ce que vous imaginez qu'on n'aimerait pas écrire quelque chose de plus léger ?
Alors... Pour tout vous dire, je ne suis pas partie bille en tête avec l'idée d'écrire sur moi, mon travail, mais ce roman, il m'a surpris moi-même, on va dire, j'ai déteint sur lui. Je n'avais pas prévu de raconter des choses aussi personnelles. On m'a tendu un piège. Mon imaginaire m'a tendu un piège. Moi, j'étais partie sur une histoire d'amour. Je n'ai jamais écrit d'histoire d'amour. Ça, c'est quand même une première pour moi. Mais il s'avère qu'un des personnages de ce roman est écrivaine, et qu'elle a un parcours assez particulier, et qu'elle est assez particulière. Et effectivement, je pense qu'elle s'est imprégnée de moi, ou je me suis imprégnée d'elle. Mais vous savez, j'ai des confidences de proches qui ont lu ce livre... Ils me disent « Tu es partout et nulle part dans ce livre, et tu es autant Marlowe, l'écrivaine, que Audrey, la libraire. » Et ça non plus, je ne l'ai pas fait exprès, mais on déteint sur ces personnages, forcément. Mais si j'avais voulu écrire une autofiction, je me serais prise autrement, bien sûr, vous vous en doutez.
Oui, oui, bien sûr.
Je serais partie dans une direction autre. Mais ce livre, il a pris un chemin que je n'avais pas anticipé.
Oui, mais d'ailleurs, je commence par la petite porte, parce qu'effectivement, ce n'est pas ça le sujet central de ce livre. Mais malgré tout, il est présent, ce sujet.
Oui.
Il est présent comme si vous étiez présente. Et en cela, il y a du Daphné du Maurier.
C'est-à-dire... Elle aussi, elle est revenue toquer à la porte.
Ben voilà. De cette ambiance présente. Quand vous parlez de ces deux personnages, puisqu'il s'agit donc de deux copines dans les années 80 qui vont moins se voir, se retrouver d'une façon très particulière 30 ans plus tard, je voudrais pas en dévoiler trop, on a quand même la sensation que c'est presque schizophrénique. Hein. C'est une seule et même personne, avec deux phases de sa personnalité.
Ce sont deux femmes en miroir, effectivement, qui se sont connues dans les années 80, très différentes à ce moment-là déjà. Très différentes dans leur apparence, dans leur manière de penser. Elles sont donc étudiantes dans dans un atelier d'écriture que j'ai moi-même visité puisque j'ai été étudiante dans la même université. Et je voulais aussi revenir sur l'importance des ateliers d'écriture qui n'existaient pas. Dans les années 80, en France, il n'y en avait pas. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis partie faire mes études en Angleterre. C'est parce que c'était une des seules universités qui me les proposait. Et pour revenir à mes deux personnages, effectivement, vous avez cette brune, l'écrivaine, un peu... On pense qu'elle est timide au début, mais en fait, elle a un certain univers. Et vous avez la blonde Audrey, qui est peut-être... la plus jolie fille de l'université et qui, en plus, a un petit copain qui est le plus beau mec du campus. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas mon ex dans cette histoire. Beaucoup de gens me demandent, mais ce fameux Laszlo, est-ce que c'est votre ex ? Non, ça n'est pas. En tout cas, ces deux femmes, effectivement, je les ai construites en miroir. Mais là encore, je vous assure que je n'ai pas fait ça d'une façon manichéenne. comme un chemin de fer que j'aurais pu. Je me suis totalement laissée emporter par mes personnages, un petit peu comme lorsque j'allais à ces ateliers d'écriture, on nous demandait, on arrivait, nous étions plusieurs en classe, peut-être une douzaine, et nous avions des thèmes très surprenants parfois, des professeurs assez loufoques, très anglais, very British. Et ce qui m'a plu dans cet exercice, c'est que nous avions assez peu de temps pour écrire ce que nous voulions écrire. Et ensuite, après, il fallait lire à voix haute. Ça, c'était quand même assez cauchemardesque.
Perdu.
Et puis surtout, il y avait des personnes qui écrivaient des choses à mourir d'ennui. Et il fallait rester poli et gentil, parce qu'il faut s'encourager quand même. Vous n'allez pas dire à une camarade de classe, oh là là, bon. Donc il fallait subir tout ça. Et puis surtout, espérer que votre texte pouvait sortir du lot. Et donc, c'était intéressant pour moi de les faire se connaître à ce moment-là, puisqu'elles sont toutes les deux douées. Elles veulent toutes les deux devenir écrivaines. Mais évidemment, il y en a une qui va devenir une écrivaine stratosphérique, connue absolument dans le monde entier, qui va devenir presque un personnage. Elle porte même pas le même nom à l'université. Elle s'appelle Marlène Tavel. Et elle va devenir cette fameuse Marlowe Van Graaff. Donc, j'ai voulu montrer aussi comment, 30 ans plus tard, on peut retrouver une camarade de classe qui a vraiment réussi, alors que vous, eh ben, vous êtes un peu restée...
sur la touche.
Voilà, sur la touche. La plus belle fille du campus, eh bien, elle s'est retrouvée un peu sur la touche.
Quels souvenirs vous avez de l'université ?
Fantastique.
C'est-à-dire ?
Oh là là. Bah, écoutez, les années 80, ce que j'ai besoin de vous expliquer. Je rappelle le début des années 80, avant le sida, hein, avant toutes ces choses qui nous ont un peu terrifiés. La liberté... Moi, j'étais donc en Angleterre, il y avait la musique.
Qu'on retrouve dans votre livre, chez
Nardès. Il y a une playlist à la fin du livre qui est très importante. J'avais la chance aussi que dans cette université, donc elle s'appelait East Anglia, à Norwich, dans le Norfolk, il y avait des concerts toutes les semaines. Et pour £5, vous pouviez assister au concert de Imagination, de Depeche Mode. C'était le début de tous ces chanteurs, de ces groupes absolument mythiques. Donc j'ai un souvenir très nostalgique, assez merveilleux de ces années libres. Et puis je vous rappelle qu'à cette époque-là, nous n'étions pas collés devant nos écrans. Il fallait se laisser des petits mots dans des casiers d'étudiants si on voulait se voir. On ne pouvait pas envoyer un SMS, il fallait aller frapper à la porte de quelqu'un pour prendre de ses nouvelles. C'était une autre vie, c'était une autre époque, et j'ai beaucoup aimé la ressusciter. Ça m'a rendu un petit peu nostalgique, sans tristesse, je le dis quand même. Vous n'allez pas croire que je regrette cette époque, je suis très contente de ce qui se passe aujourd'hui, mais j'avoue que ces fameuses années 80 et cette université, assez reconnue, paumé dans la campagne anglaise très moderne en forme de pyramide, nous avions quand même des profs passionnés qui nous ont appris à écrire, comment écrire. Et ce fameux professeur qui dit à mes héroïnes, vous prenez du vrai pour en faire du faux qui ressemble à du vrai, ben ça c'est quelque chose que j'ai appliqué toute ma vie à tous mes livres, même le livre d'avant.
Mais le passé, c'est quand même presque un personnage qu'on retrouve dans votre écriture d'une façon générale.
Oui.
Le fait de regarder un peu en arrière aussi est quelque chose que vous faites facilement ?
Oui, mais je me permets quand même de vous rectifier en vous disant que pour Les Fleurs de l'Ombre, je me suis plongée en 2037.
C'est vrai.
Un livre d'ailleurs qui a parlé de l'avènement de ChatGPT avant même que ça existe. Quand je l'ai écrit en 2020, ChatGPT n'existait pas, puisque c'est l'histoire d'une romancière qui va se faire manger par son IA. C'est assez actuel. Donc c'était la première fois que je parlais du futur, ça m'a plu. Mais c'est vrai que là, le passé que j'invoque, c'est le mien, en fait. C'est la première fois que je fais ça. La première fois que je parle...
Est-ce que c'est inconfortable ?
Non, pas du tout. J'ai adoré. C'était comme une Madeleine de Proust. En fait, c'était... J'avais oublié les sensations, justement, ce que je vous disais, de cette façon de communiquer que nous avions, la lenteur des choses. Comment l'information nous arrivait, c'était soit par la radio, parce que nous n'avions pas de télé à l'université, il n'y avait pas X ou Instagram. Hein. Et le fait de se retrouver tous dans des endroits précis, le bar, le pub, les concerts, la bibliothèque. Oui, c'est vrai que ça me paraît loin, mais C'est une nostalgie heureuse, pour emprunter un titre peut-être, parce que c'est pas notre chère Amélie Nothomb qui a écrit un livre qui s'appelle La nostalgie heureuse.
Je crois. Que ça lui ressemblerait.
Oui. C'est ça.
Est-ce que vous avez eu la vie que vous espériez avoir à cette époque-là?
Quand j'étais à l'université? Ouais. C'est très difficile de répondre à votre question. J'avais 20 ans, je ne savais rien de la vie.
Qu'est-ce que vous en attendiez?
J'étais contente déjà de quitter le Paris, de découvrir mon côté anglais. Je pense que c'est à ce moment-là, quand je suis devenue punk, je sais que ça fait sourire beaucoup d'entre vous, parce que vous dites, mais cette dame qui a l'air si distinguée, how is it possible that she could have been punk, but I was? C'était le début d'une aventure, mais je ne le savais pas encore. On ne sait rien à 20 ans, on est un bébé, on ne sait rien.
Parce que dans votre livre, il y a un petit peu question de ça aussi, de ce personnage, Audrey, qui regarde justement ce à quoi elle rêvait quand elle avait 20 ans et ce qu'elle est devenue.
Oui, alors Audrey, c'est vrai qu'elle avait un avenir absolument merveilleux. Elle a publié un premier roman qui a fait un flop total. Elle avait le plus beau mec du campus qui l'a quitté. Et puis, elle s'est retrouvée un peu seule, un peu divorcée. Ceci dit, elle fait un très beau métier. Elle est libraire, quand même. Elle est passeuse de livres. Mais bon, Audrey, je pense qu'elle s'en sort pas si mal. Pour pas tout dévoiler. Mais c'était intéressant de partir de deux filles, dont une était éclipsée tout le monde par sa beauté, par... ce qu'elle représentait, et l'autre qui était dans l'ombre. Et puis, 30 ans plus tard, c'est celle qui est dans l'ombre, qui est devenue cette star de la littérature, et l'autre, qui en plus a gagné quelques complexes, se trouve beaucoup moins jolie alors qu'elle l'est encore, mais elle ne le sait pas, et qui est un peu coincée dans une vie un peu triste, qui a toujours cet amour des livres, qui voit arriver chaque année sur la pile des livres les romans qui se vendent tellement bien de cette ex-rivale, qui en plus, faut quand même préciser que cette ex-rivale a épousé le plus beau mec du campus. Et maintenant, vous avez tout compris. Le triangle amoureux. C'était ça aussi que je voulais mettre en scène.
Mais à nouveau, on retrouve comme ça, en filigrane, Tatiana de Renay, votre façon d'aborder des sujets forts pour les femmes. Se marier, avoir des enfants, faire carrière.
Ou pas.
Ou pas. Prendre soin de soi, suivant des injonctions... ou pas, il y a quand même ce petit sujet qui est toujours dans votre écriture, parce que ça, c'est quoi? C'est le grand sujet de toute façon pour les femmes.
Je pense que c'est intéressant de regarder des trajectoires de femmes de façon littéraire, de façon romanesque. La personne qui m'a accompagnée ici dans le train relisait l'Assommoir. Quel destin tragique, celui de Gervaise. Donc, j'ai toujours aimé écrire sur les femmes. Mais là, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est plutôt le parcours. On parlait tout à l'heure de ces femmes en miroir. Et comment, en fait, les parcours... Il y en a une qui a eu des enfants, l'autre pas. On ne sait pas pourquoi. On va découvrir des choses. On va découvrir plein de secrets sur ces deux femmes. Mmh. Et puis évidemment, je les ai aussi définies par cet homme qu'elles ont toutes les deux aimé, qui les a toutes les deux aimées. Je vous fais remarquer que je ne décris jamais cet homme. C'est très intéressant parce que mes lectrices, mes lecteurs réagissent à cet homme d'une façon presque comme un fantasme. Alors je ne dis jamais comment il...
Clairement comme un fantasme, c'est d'accord.
Oui, mais je ne dis jamais comment il est. Ah, oui. En fait, je le décris par les regards qui sont posés sur lui et l'effet qu'il fait quand il rentre dans une pièce. Mmh. Mais je ne dis pas, il était grand, il avait les yeux, etc. Mmh,
c'est vrai.
Mais oui.
Mais vous offrez à vos lectrices,
oui,
un sacré fantasme.
Oui.
Et ça, c'est très rigolo.
Ça m'a beaucoup plu.
Ah oui.
Mais parce qu'on a toutes quand même, tous, dans notre vie, un premier amour. Peut-être que ce premier amour s'est mal terminé, c'est parfois souvent le cas. Mais ce premier amour, il laisse sa trace. Il laisse son empreinte. Et vous ne l'oubliez jamais. Vous n'oubliez jamais le nom de ce premier amour, ni son parfum, ni comment il ou elle vous embrassait. Même toutes ces années plus tard, on n'oublie pas, même si on n'a jamais revu cette personne. Donc c'est vrai que c'est de l'ordre du fantasme, je dirais aussi peut-être même que certaines personnes redoutent de se retrouver en compagnie de ce premier amour. Et c'est vrai que mon héroïne Audrey va se retrouver face à Laszlo d'une façon dramatique, puisqu'il va arriver quelque chose d'assez dramatique qui est en début du livre, donc je ne spoile rien, c'est sur la quatrième de couverture, ne vous inquiétez pas. Ça commence par le décès de cette immense romancière, Marlo von Graf, qui se noie, et le roman démarre avec un coup de fil, puisque Audrey, pour une raison qu'elle ignore complètement, et vous aussi, se trouve dans le testament de cette Marlo von Graf.
Qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans.
Qu'elle n'a pas vu depuis 30 ans, puis elle a su entre-temps que Laszlo l'a épousée.
Oui. Ah, oui. Donc ça démarre quand même... Bon. Oui. C'est un livre en tension aussi.
Alors, oui, ça, j'ai voulu ça. J'ai voulu ça. Mais je vais vous faire une petite confidence, puisque nous sommes entre nous. Plusieurs éditeurs m'ont demandé d'écrire des romances. Est-ce que j'ai besoin de vous expliquer ce que c'est qu'une romance ? Ce sont des romans qui marchent très bien, qui sont des histoires d'amour, qui sont un peu construites sur le même schéma, la même base. Et ça marche très bien, les romances. Il y a la dark romance, la new romance. Et donc, je me suis penchée sur ce que c'était. J'ai dit aux éditeurs en question que c'était pas exactement my cup of tea. Que j'appréciais, j'admirais ce que font les personnes qui écrivent de la romance, mais c'était pas exactement... je pouvais pas vraiment imaginer quelque chose d'intéressant dans ce que j'aurais pu faire. Mais ça a planté cette petite graine de finalement écrire sur une histoire d'amour. Et il y a plusieurs histoires d'amour dans ce livre.
Absolument.
Il n'y a pas seulement le triangle amoureux dont nous parlons, de Laszlo et ses deux femmes, Audrey et Marlo. Il y a aussi une autre histoire d'amour.
Oui.
Je ne sais pas comment vous voulez l'aborder.
On va l'aborder. On va essayer d'en dire le moins possible, mais on va l'aborder.
Mais elle est très importante.
Elle est majeure.
Oui. Et d'ailleurs, c'est un rapport avec le titre.
Ah oui, on peut le dire. C'est un rapport avec le titre.
Disons-le.
Oui, tout à fait. Voilà. Mais vous vouliez, en tout cas, pour finir sur cette histoire d'écriture,
oui,
vous vouliez apporter du suspense. Cette histoire de romance,
oui,
vous a mis sur la voie,
oui,
de parler d'amour.
De parler d'une intrigue sentimentale, en fait. D'accord. Un suspense amoureux. Je n'avais jamais écrit sur l'amour. J'ai toujours écrit sur l'amour d'une façon parfois un peu, on va dire, j'essaye de trouver le bon mot, acerbe. J'ai beaucoup écrit sur l'infidélité. J'ai beaucoup écrit sur les personnes qui se séparent.
On pourrait dire sombre.
Oui. Voilà. Et là, c'était « The dark side of love ». Et là, je me suis dit, mais Tatiana, pourquoi est-ce que tu pourrais pas, pour une fois, explorer une histoire d'amour avec ses complications ?
Oui, oui, oui.
Puisqu'il y en a. Rien n'est simple dans l'amour, vous êtes d'accord avec moi. Mais pourquoi ce suspense ? Parce que cette histoire de manuscrit que Audrey va recevoir, elle ne sait pas pourquoi, de la part de cette écrivaine qui s'est noyée, on ne sait pas pourquoi ni comment, qu'est-ce qu'il y a dans ce manuscrit ? Et donc, cette intrigue amoureuse m'a donné un petit peu, c'était comme un... Voilà, le départ de cette histoire. Et je voulais vraiment attraper ma lectrice, mon lecteur, pour pas la perdre ou le perdre dans des méandres de quelque chose qui aurait pu être sirupeux. Ou je voulais absolument, à chaque fois que ma lectrice se dise « Ah, je vais ouvrir cette porte. Ah non, ah, c'est pas ça. » Voilà, c'est un peu un jeu de piste. Un jeu de piste.
Alors, comme vous l'avez dit, il y a plusieurs histoires d'amour. Il y a donc il y a celle de donc qui relie ces deux femmes avec le même homme. Il y a aussi celle d'Audrey qui a malgré tout qui fréquente quelqu'un. En tout cas, voilà.
Oui, le pauvre.
Voilà.
Parce que quand Laszlo va revenir, ça va être compliqué pour lui.
Voilà. Oui. Et puis il y a autre chose qui lie ces deux femmes, c'est un devoir qu'elles doivent faire ensemble sur Oscar Wilde. Or, parler de l'amour et d'Oscar Wilde, c'est déjà prendre le pli d'une intrigue folle, puisque là où vous nous amenez, c'est quand même sur le fait que l'amour peut être une punition parfois.
Alors, Oscar Wilde le disait mieux que moi. Je rappelle pour la petite histoire, donc, mon titre vient d'une de ses œuvres beaucoup moins connues, qui s'appelle De Profundis, qu'il a écrit en prison. Il a été emprisonné 2 ans. Pour outrage aux mœurs, parce qu'il était homosexuel. Il en est sorti brisé, ruiné, déshonoré. Il a perdu ses enfants, il a perdu sa femme, personne n'avait le droit de porter son nom, et il est venu donc se réfugier en sortant de prison à Paris. Beaucoup de gens pensent qu'Oscar Wilde est mort dans un très bel hôtel, très confortable, riche, voilà, en train de faire ses aphorismes qu'on connaît par cœur, résister à tout, sauf à la tentation, etc. Mais pas du tout. Oscar Wilde est mort dans une misère totale, dans un petit hôtel très misérable à Paris qui s'appelait l'hôtel d'Alsace. Et pour revenir à nos héroïnes et à ce fameux professeur d'anglais, qui aurait pu être le mien d'ailleurs, ce professeur de littérature, il leur a donné comme consigne inventer une histoire autour de la mort d'Oscar Wilde. Vous avez carte blanche. Donc évidemment, elles sont parties dans des directions assez dingues, mais j'ai bien étudié la vie d'Oscar Wilde, moi aussi, à l'université. D'ailleurs, j'étais assez récemment à Dublin sur ses traces, visiter la maison où il a vécu avec sa famille. Oscar Wilde, en fait, est un peu un contraste terrible parce qu'il avait ses formules toutes faites magnifiques, mais il a une vie amoureuse tellement triste et sur tous les niveaux. Il a rendu sa femme très malheureuse. Elle en est presque morte. Et il a eu le cœur brisé par un épouvantable jeune homme qui a contribué à sa chute, qui s'appelait Lord Alfred Douglas, dit Bosey. Et c'est qui est un peu le Dorian Gray de l'histoire, on va dire. Et donc Oscar Wilde, dans mon livre, il est un peu la troisième voix. Enfin, je ne parle pas en son nom. Je ne me permettrai pas cela. Mais il fait donc partie de l'histoire que Marlowe et Audrey vont écrire. Évidemment, à un moment, Marlowe va mettre la main dessus. Elle va le mettre plus à sa patte. Mais en me penchant sur la vie de Wilde, vous vous souvenez, nous avions parlé de Marilyn Monroe et de Pauline, la jeune femme qui s'occupait de sa suite lors du tournage des Accès. Eh bien, dans cet hôtel, il y avait quelqu'un qui a vraiment veillé sur Wilde. Je lui ai donné un autre nom, j'ai retrouvé son portrait, j'ai retrouvé tout ce qu'il avait vraiment fait pour Wilde. Moi, j'ai tiré un fil, mais c'est ce que nous faisons, c'est notre métier. On part toujours de quelque chose qui est vrai, et on invente une histoire, et on vous embarque. Et nous, le plus important, c'est qu'on veut que vous y croyiez. Donc il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit, mais alors cette histoire que vous racontez, alors je vais pas tout vous dévoiler évidemment, mais est-ce que ça a vraiment existé? Parce qu'on aimerait tellement que ça ait vraiment existé. Moi, je réponds dans mon fort intérieur, peut-être. En tout cas, évoquer Wilde dans ses derniers instants de sa vie, donc nous sommes en 1900, parce qu'il est mort en novembre 1900, évoquer ce Paris de 1900, évoquer comment il est mort, ce qui est arrivé, ça m'a énormément plu. Et même si j'en ai fait une histoire totalement fictive, j'aimerais vraiment que vous puissiez y croire. C'est mon travail, c'est ce que j'essaie de faire depuis maintenant 30 ans.
Mais en fait, vous aviez envie de lui donner aussi un peu d'amour avant de mourir?
J'avais surtout envie de lui rendre hommage. Je reviens à ce qu'on se disait au début. Oscar Wilde a longtemps été catalogué, grand dandy. On retient de lui que Dorian Gray. Il faut lire De Profondis, cette fameuse lettre qu'il a écrite dans sa prison. Il est mort à 46 ans, donc assez jeune. Et je voulais aussi attirer l'attention sur comment il est mort et puis effectivement inventer cette histoire que mes héroïnes vont inventer. J'y ai pris un plaisir fou. J'étais d'ailleurs triste que ça doive... Parce qu'on sait que malheureusement, Oscar Wilde est mort. Là, je ne pouvais pas aller contre la date du 30 novembre 1900. J'étais obligée. C'est... Voilà. Mais bon. Mais j'en ai fait autre chose. Ça m'a beaucoup plu. Et ça m'a rappelé ces années universitaires où le prof nous disait, allez, arrêtez de penser à nous, arrêtez de penser aux lecteurs, lâchez-vous, inventez une histoire. J'ai retrouvé ça, ça c'était formidable.
Et puis aussi, il y a des histoires dans l'histoire, des livres dans le livre. Oui. Quand vous dites que vous nous baladez, c'est aussi dans la forme de votre écriture.
Oui, je vous balade aussi parce que dans ce manuscrit dont va hériter Audrey, et au début elle ne va pas du tout comprendre ce que c'est, elle va devoir faire un petit effort, vous aussi peut-être, pour comprendre ce que c'est, parce que tout n'est pas cousu de fil blanc quand même, il faut faire un voilà, mais très vite on comprend. Et c'est vrai qu'il y a des lettres qui peuvent, ou même des documents qui sont des brouillons. Marlo van Graaff a écrit 3 romans très, très, très célèbres. Et Audrey va retrouver presque des brouillons de ces scènes, les scènes les plus difficiles, parce que Marlo a un univers terriblement noir, très, on va dire, c'est peut-être un mélange entre Donna Tartt et Amélie Nothomb. Son univers, c'est qu'elle peut, aller chercher des thèmes. D'ailleurs, Amélie a beaucoup aimé ce livre. Je précise, elle m'a envoyé elle m'a laissé un message vocal merveilleux. Parfois, c'est très important d'avoir un encouragement de ses consoeurs et surtout d'une consoeur aussi talentueuse qu'Amélie Nothomb. Donc, merci Amélie. Si jamais tu regardes, ça m'étonnerait, mais si jamais tu regardes, je t'embrasse. Donc, pour revenir à Marlo, il y a dans ce manuscrit effectivement des lettres, mais je reviens toujours à ceci. Peut-on et faut-il croire ce qu'écrit une romancière?
En tout cas, vous dites des romanciers que ce sont des gens très égoïstes et invivables.
Alors, je ne dis pas ça, je précise, merci. Là, je parle, c'est Laszlo, le mari. Je pense que ça a été très compliqué d'être le mari de Marlo van Graaff. Elle n'était jamais là. Elle était tout le temps en dédicace. Elle avait une communauté de lecteurs qui allait jusqu'à frapper à la porte de leur maison. Il était Monsieur van Graaff. Ce n'est pas facile d'être le mari d'une romancière. Je vous vois venir. Je vous vois venir. J'ai la chance d'avoir, pas un monsieur Doronet, ça c'est mon père, mais un monsieur qui s'appelle Nicolas, dans ma vie depuis presque 40 ans. Mais ce n'est pas facile. Il a lu ce livre avec beaucoup d'intérêt. Il était d'ailleurs assez intrigué. Il a vu des choses que je n'avais pas vues, qui sont trop intimes, que je ne peux pas vous dire, pardonnez-moi. Mais j'ai été très étonnée par son feedback. Et oui, c'est vrai, avoir un écrivain dans la famille, ce n'est pas facile, mais vous le savez. Vous faites combien d'interviews d'écrivains par semaine? Notre famille, parfois, c'est difficile de nous voir dans les médias, de lire nos livres, parce que, et puis ce livre-là est extrêmement personnel. Il y a même des choses que vous n'avez pas vues, heureusement d'ailleurs. Mais cela fait partie un petit peu de ce que je voulais mettre en scène, de l'écrire sous cette forme d'intrigue amoureuse et de suspense, de pouvoir quand même aborder la difficulté d'avoir un auteur dans une famille qui, à un moment, va écrire un livre, va publier un livre. Et il est question de sujets souvent familiaux. Nous revenons très souvent, nous les auteurs, sur la famille. C'est vrai. Pourquoi? Parce qu'elle nous a nourris, blessés, déçus, portés. C'est un sujet, on ne peut pas y échapper. On revient toujours à la famille. Donc évidemment, je n'ai pas mis ma famille en scène ici. Mais j'ai mis en scène un couple dont le mari est marié avec une romancière. Et pour lui, c'est difficile. Pas pour mon mari, qui est encore là, Dieu merci. Pour combien de temps encore, je ne sais pas. Mais en tout cas, je voulais quand même que Laszlo puisse dire elle était égoïste. Pourquoi elle est égoïste? Parce qu'elle a choisi l'écriture sur tout le reste. Parce que sa famille, c'est ses lecteurs.
Mais vous, un jour, vous avez dû choisir entre l'écriture...
Non, mais je ne suis pas Marlo van Graaff.
Non, mais je vous pose la question à vous, Tassia Dronet. Est-ce que vous avez, dans votre vie, eu à choisir entre l'écriture et autre chose?
C'était compliqué, quand j'étais jeune mère de famille, d'écrire et d'élever mes enfants. Alors, j'écrivais la nuit, comme beaucoup de femmes. J'avais un travail, j'étais journaliste pendant la journée. Et donc, je me levais très, très tôt, ou alors j'écrivais la nuit. Donc, on va dire que ce choix, il s'est fait naturellement parce que je ne voulais pas arrêter d'écrire. Mais Marlo van Graaff, elle a choisi ses livres au-dessus de tout. Elle met ses livres en premier. Moi, je ne fais pas ça.
Ça vous a traversé l'esprit?
Oui, bien sûr. Mais j'irai encore plus loin en vous disant que c'est vrai que l'écriture, quand même, peut nous sauver. Ce livre est né d'un moment assez, assez noir dans ma vie. J'ai eu l'année dernière assez difficile, pour encore une fois des raisons trop personnelles à vous expliquer ici, trop douloureuses, mais écrire peut vous aider, ou aider un écrivain, on va dire, ça vous donne quelque part du grain à moudre quand on ne va pas bien. D'ailleurs, Marlowe le dit, si j'étais quelqu'un de parfaitement heureuse, je n'écrirais pas. Je suis un tout petit peu d'accord avec elle. Alors, je vous rassure, hein, je ne suis pas horriblement malheureuse et je n'ai pas... Mais on a tous des moments difficiles, j'imagine que vous aussi. Et écrire, quand on est dans un moment difficile, je trouve, offre plus de profondeur, de sincérité, on vise peut-être plus juste quand on n'est pas bien, quand on écrit quand on n'est pas bien. On écrit avec ses tripes, en fait, même si c'est pas mon histoire à proprement dite. Mais les sentiments, tout ce qui fait que nous sommes des êtres, après tout, un peu à fleur de peau, nous, les auteurs, c'est des livres que nous écrivons avec nos larmes et avec notre sang. Donc, je suis assez contente de faire ce métier, mine de rien, parce qu'il me permet parfois aussi, c'est une espèce d'exutoire, mais ce n'est pas une thérapie, attention.
Oui, c'est ce que vous faites.
Ce n'est pas une thérapie.
Ce personnage, hein, écrire, voilà, avec ses tripes, avec son sang, vous parlez de l'antre de l'écrivain, qui est un endroit très particulier,
très.
Vous parlez des rituels, du lien avec les fans, etc. Est-ce qu'on pourrait dire, en exagérant le trait, je ne sais pas, Tatiana de Ronec, que vos meilleurs livres sont ceux que vous aurez écrits dans les périodes les plus douloureuses de votre vie?
C'est difficile pour moi de vous répondre parce que, d'abord, j'écris depuis donc fort longtemps. J'ai commencé à écrire à l'âge de 10 ans. Il y a toutes sortes de livres qui n'ont jamais été publiés, qui sont dans cette fameuse caisse sous mon lit, où il y a écrit « Ne pas publier si je meurs ». Célestine Dubac était sortie de cette caisse-là, vous vous souvenez?
Très bien.
Alors, je vais répondre autrement à votre question, si vous permettez.
Vous répondez comme vous voulez.
Je dirais que, pour moi, écrire les livres les plus justes, écrire les livres les plus forts, c'est parfois les écrire avec une certaine noirceur qui est en vous pour des raisons... Mais même, ça peut être quelque chose qui vous touche profondément. Je reviens à Elle s'appelait Sarah. Je n'avais pas du tout prévu d'écrire un livre sur la rafle du Veldiv. Ce livre est venu à moi. J'ai écrit l'histoire de cette petite fille. Ce livre a été très difficile à faire publier. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, ça a été long. Mais j'ai écrit ce livre avec la douleur et la tristesse que j'ai ressentie quand j'ai compris ce qui était arrivé à ces 4000 enfants raflés le 16 juillet 42. Donc oui, ça part toujours de quelque chose qui me marque un peu au fer rouge. Si j'étais parfaitement heureuse, if I was perfectly happy, I would be doing another job. Je ferais autre chose.
Mais alors, finalement, c'est à la fois une grande chance et la plus grande difficulté que d'être écrivain, puisque c'est laisser apparaître sa part sombre.
Oui, mais c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je ne voulais pas montrer cette part sombre par respect pour ma famille, pour mes proches. Je faisais attention, je coupais les phrases qui étaient peut-être trop brutales ou trop évocatrice. Et j'ai appris, en avançant dans la vie, à ne plus avoir peur de ça, du tout. À assumer ce que j'écris. À dire, okay, peut-être que ça ne plaira pas, peut-être que ça pourra choquer, peut-être que ça mettra mal à l'aise. Mais j'assume ça. J'assume parfaitement ça, parce que, pour moi, cela fait partie du métier d'écrivain. De ne pas toujours écrire pour vous plaire. Je préfère désarçonner mes lecteurs, quitte à les sortir de leur zone de confort. Mais au moins, vous aurez ressenti quelque chose. Je ne veux pas vous endormir avec des bons sentiments. Je préfère que vous passiez une mauvaise nuit à cause de moi. Non, vraiment. Sinon, après, vous m'oublierez. Vous m'oublierez. Donc c'est... Oui, apprendre à écrire avec sa part sombre et à l'assumer. Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que tous les écrivains... sont des gens torturés et rongés par quelque chose de terrible. Non, mais nous avons, oui, une part sombre et nous avons aussi une certaine fragilité. Et je pense que c'est ça dont je n'ai plus peur aujourd'hui. Je n'ai plus peur de montrer une certaine fragilité.
Et vous l'avez dit à l'instant, ça parle de célébrité. Et c'est pas la première fois que vous abordez, que vous flirtez avec cette idée. Vous avez parlé de Marilyn Monroe, Daphné du Maurier, Oscar Wilde. Vous avez dit aussi que les lieux étaient très importants pour vous. Ce n'est pas la première fois qu'on est dans un hôtel, oui. Espace très singulier où tout est possible pour l'imaginaire, peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, quel rapport avec vous, à la fois avec les hôtels et en même temps la célébrité, puisque finalement, quand on est célèbre, on est souvent à l'hôtel.
Alors, très bonne question. C'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2013, j'avais écrit un roman qui s'appelait « À l'encre russe ». Et qui se passait dans un hôtel de luxe merveilleux, quelque part en Italie. Et j'avais déjà un héros qui était un jeune écrivain, très vaniteux, mais qui va tomber de bien haut, Nicolas Colt. Un hôtel, c'est un lieu rêvé pour un écrivain, parce que on est un peu, comment dire, c'est comme si vous êtes devant un banquet délicieux. Vous avez devant vous, vous êtes au bord d'une piscine, vous êtes dans un restaurant, vous voyez passer toutes sortes de personnes. Et vous pouvez imaginer, ou pas, leur vie. Vous laissez un peu traîner vos oreilles, vous écoutez ce qu'ils commandent, vous écoutez comment ils se parlent. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu compliqué, un écrivain dans un hôtel ou dans un train, d'ailleurs, je l'ai souvent dit. Méfiez-vous de nous, parce qu'on voit tout de vous, et on vous écoute, et on aime bien ça. Donc, l'hôtel, déjà, donc, le lieu d'un melting pot de toutes sortes de personnes très différentes qui travaillent là, une star de cinéma, comme Pauline. Pour Oscar... et Pierre, qui est le jeune héros de la partie de mon livre qui s'appelle « La taille verte », voilà, ce jeune aubergiste qui voit arriver ce pauvre écrivain complètement au bout de sa vie. Et puis on aime toujours imaginer ce qui s'est passé dans ces endroits. Ça, c'est quelque chose qui me travaille. Dès que je vais quelque part, d'ailleurs, sauf peut-être la station Ozone, c'est vrai, qui n'est pas très... Peut-être qu'il faudrait que j'en parle à Denis Mola, qui rajoute quelque chose de plus... je sais pas, moi, inspirant, parce que là, on voit que du noir. Mais bon, c'est très inspirant aussi, à sa façon, je vous rassure. Mais les lieux, les hôtels, m'inspirent toujours. Et dès que j'arrive dans un hôtel que je ne connais pas, c'est comme si mon cerveau se mettait en pilote automatique. Et il va chercher tout seul. Il me dit, tiens, regarde cette femme-là. Qu'est-ce qu'elle est en train de lire? À ton avis, elle attend qui? Elle regarde sa montre tout le temps, ou elle regarde son téléphone, elle a l'air agacée. C'est quoi son histoire? Je ne peux pas m'en empêcher. C'est malgré moi. Et le jour où ça s'arrêtera, je serai embêtée.
Donc du coup, ça vous arrange bien d'être célèbre et d'être souvent à l'hôtel, parce que c'est la fête?
Oui, sauf que on me reconnaît pas toujours dans les hôtels, je précise. Je ne suis ni Marlowe Van Graaff, ni Oscar Wilde. On me reconnaît pas toujours, et c'est très bien. D'ailleurs, il suffit que je mette un chapeau et... ou alors on pense que je suis Sophie Fontanelle, qui a la couleur des cheveux la même.
Quel rapport avez-vous avec la célébrité?
Je m'en fiche totalement. Honnêtement, je pense que j'ai eu des très belles années. J'ai eu des moments où mes livres se vendaient vraiment très très bien. Je trouve qu'aujourd'hui, on vend un peu moins de livres. En tout cas, moi personnellement, c'est peut-être moins glorieux que c'était. Mais vous êtes là. On me lit encore. On a envie de m'écouter.
Mais vous aimez ça?
Oui. Bien sûr, mais ce n'est pas la célébrité qui m'intéresse. C'est l'échange. C'est de venir ici, vous voir, parler avec vous. Être prise en photo pour un selfie, pourquoi pas? Mais je sais que vous en voudrez, donc on vous dira oui, bien sûr. Mais la célébrité ne m'intéresse pas du tout. Ça ne fait pas partie de... Qu'on me reconnaisse et qu'on me dise « Ah, j'aime vos livres », c'est merveilleux. Mais je dirais pas... Je dirais que c'est la reconnaissance qui m'intéresse plus que la célébrité, qui est un mot un peu comment dire, c'est toujours les mots anglais qui me viennent, shallow, creux, voilà, je ça m'intéresse pas, là.
Être célèbre pour être célèbre, ça n'a pas d'intérêt.
Mais non, puis aujourd'hui il y a des influenceurs qui sont 15 fois plus célèbres, 100 fois plus célèbres que les écrivains, donc non c'est la reconnaissance, moi, qui m'intéresse. Les conversations que je peux avoir, les lettres, non, on n'en voit plus de lettres, on va dire les mots qu'on me laisse sur Instagram ou sur les réseaux, et j'essaie de répondre à tout le monde. L'échange m'intéresse, pas la célébrité, non.
Et alors, est-ce que tout se joue à l'adolescence? Est-ce que tout ça, finalement, c'est écrit quand on a 20 ans?
Ah, que dirait mon psy?
C'est le sujet de votre livre.
Oui. Je pense que beaucoup, beaucoup de racines profondes naissent à ce moment-là, où nous sommes où nous ne savons pas encore qui nous allons devenir. Nous ne pouvons pas imaginer les revirements de la vie, à la fois les épreuves de la vie, bien sûr, mais aussi les bonheurs, les joies. Nous n'avons aucune idée. Mais nous sommes marqués par tout ce qui s'est passé, oui, entre 15 et 20 ans. C'est un âge très précieux et c'est pour ça aussi, je trouve, qu'on s'en souvient si clairement. Je me souviens beaucoup plus clairement de mes 15, 20 ans que ce qui s'est passé quand j'en avais 30, 40 ou même 50. Les choses reviennent parfois, un parfum, un livre qu'on relit, un lieu qu'on va revisiter. Peut-être parce que quand on a cet âge-là, on vit les choses avec tellement d'intensité, puis on a tellement d'espérance, on espère tellement de choses, on veut tellement de choses. Et moi, j'écrivais un journal intime hein, qui était, heureusement, qui ne sera jamais publié, je précise tout de suite.
Vous l'avez toujours ?
Mais oui, j'ai commencé à l'âge de 10 ans et je l'ai arrêté à l'âge de 35.
Vous l'avez relu ?
Certains passages, d'ailleurs, je voudrais quand même préciser que certains passages de ce roman, il y a des textes que j'ai écrits à l'université à l'âge de 20 ans.
Bah, on a réussi à vous décrocher un secret.
Oui. Yes. Non, mais maintenant, je dis les choses beaucoup plus ouvertement. Je ne me cache pas derrière la célébrité.
Oui, oui, oui.
C'est moi, oui. Aujourd'hui, là, alors, devant vous.
Est-ce qu'en écrivant ce livre et en allant chercher des choses, justement, voilà, en revisitant votre passé de façon même surprenante pour vous-même, est-ce que vous avez été surprise ? Par quelque chose.
Vous voulez dire par l'écriture du livre ou par...
Vous-même, en écrivant, en revisitant à la fois votre passé et celui de vos héroïnes, mais est-ce que vous avez...
Oui, parce que, pour tout vous dire, quand j'ai commencé ce roman, je ne savais pas très bien comment le terminer. J'étais embarquée avec mes héroïnes, mon Oscar, et j'ai imaginé que la fin d'un livre, si vous êtes à bord d'un petit avion... Vous savez pas très bien où vous allez vous poser en fait. Vous regardez, il fait un peu sombre, vous voyez mal la piste d'atterrissage et vous vous dites ah là là, il faut quand même que j'arrive à poser mon avion parce que sinon j'ai pas la fin de mon livre. Vous m'avez beaucoup reproché, enfin pas vous tous ici, mais on m'a beaucoup reproché mes fins ouvertes. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur Spirale, qu'est-ce que je n'ai pas entendu sur Les Fleurs de l'Ombre. Donc je me suis dit il faut que j'ai une vraie fin. Donc Dans ce moment de ma vie un peu compliqué que j'ai vécu l'année dernière, je vous dirais juste qu'il y a eu voilà, des adieux à des gens que j'aimais, des adieux à des lieux que j'aimais. Je pense que vous avez tous vécu ça, malheureusement. Mais quelque part, ça m'a permis de mettre en place une sorte de puzzle. Petit à petit, j'ai tout à coup compris où je voulais poser mon petit avion. J'ai trouvé... Et donc, je l'ai posé et j'ai été étonnée de comment je l'ai posé, assez smooth, comme on dit. Il n'y a pas eu de voilà, ça n'a pas été un atterrissage brutal. Il s'est posé assez en douceur. Et après, quand je suis sortie de mon petit avion et que j'ai vu où j'étais, je me suis dit, mais c'est exactement où tu voulais être. Comment as-tu fait ? Je pense que c'est Marlowe Van Graaff. Je reviens à elle. Parce que toute cette noirceur qu'elle cherche et dont elle parle dans ses livres, elle est allée chercher la mienne, elle l'a sortie de moi, elle m'a fait un très beau train d'atterrissage. Donc je la remercie.
Mais au fond, Tatiana de René, bien sûr, votre part sombre, on la connaît parce que ça fait un moment que vous écrivez effectivement avec celle-ci ou sur celle-ci, je ne sais pas, ou peut-être les deux. Mais là, vous laissez peut-être apparaître aussi, en tout cas c'est ma dernière question, votre part romantique, non ?
Mais complètement, mais évidemment. Et c'est pour ça que je suis heureuse d'avouer que j'ai écrit un roman d'amour, même si, effectivement, c'est un roman d'amour un peu plus compliqué qu'on le pense. Mais dans romantique, il y a beaucoup de choses. Et il y a aussi romanesque. Et c'est un livre à la fois romantique et romanesque. Et je ne l'avais jamais écrit, un livre romantique et romanesque. Donc c'est très nouveau.
Est-ce que c'est difficile d'écrire sur l'amour ?
Non, moi, ça m'a plu. Je ne sais pas si je recommencerai. Mais j'ai bien aimé.
Parce que vous abordez ça avec Oscar Wilde, c'est la difficulté d'écrire sur l'amour ou sur la mort, qui sont voilà, les deux ouais. Thèmes très bien récurrents. Donc c'est toujours la question, quel est le plus difficile finalement pour vous, ni l'un ni l'autre ?
Vous savez, quand on écrit un livre, on est dans un état assez particulier, donc c'est toujours difficile de revenir à comment on était quand on l'a écrit. Maintenant, je suis sortie de ce livre, je l'ai terminé en septembre dernier, mais je le regarde avec... j'ai l'impression qu'il y a quand même une partie de moi-même dans ce livre, beaucoup plus que dans mes autres livres, malgré moi ou à cause de moi.
Je le crois aussi. Merci, Tatiana Rodin.
Merci à vous.